Mais à cet instant, une forme glissa du haut en bas. L'échelle fut enlevée et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmès et Wilson s'étaient élancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, deux coups de feu jaillirent.
« Blessé ?»
cria Sholmès.
« Non !»
répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser. Mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba.
« Damnation !» hurla Sholmès. « Si on me l'a tué, je tue !»
Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. Trop tard, l'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs.
« Wilson, Wilson, ce n'est pas sérieux, hein? Une simple égratignure !»
Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Le premier, Monsieur d'Imbleval, survint. Puis des domestiques, munis de bougies.
« Quoi? Qu'y a-t-il ? »
s'écria le baron.
« Monsieur Wilson est blessé ?»«
Rien, une simple égratignure !»
répéta Sholmès, cherchant à s'illusionner. Le sang coulait en abondance, et la face était livide. Le docteur, 20 minutes après, constatait que la pointe du couteau s'était arrêtée à 4 millimètres du cœur.
« 4 millimètres du cœur ! Ce Wilson a toujours eu de la chance !»
conclut Sholmès d'un ton d'envie.
« de la chance !» grommela le docteur.
« Dame, avec sa robuste constitution, il en sera quitte !»«
Pour 6 semaines de lit et 2 mois de convalescence. »«
Pas davantage ?»
« Non, à moins de complications. »«
Pourquoi, diable, voulez-vous qu'il y ait des complications ?»
Pleinement rassuré, Sholmès rejoignit le baron au boudoir. Cette fois, le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale et, d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte. Un des carreaux avait été proprement découpé. Et au petit jour, une enquête sommaire, en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction, indiqua la voie que l'on avait suivie.
« Bref, dit Monsieur d'Imbleval avec une certaine ironie, c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive. »«
Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice. »
« Vous ne l'adoptez donc pas encore. Ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier. »«
Il la confirme, monsieur. »«
Est-ce croyable ? Vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors, et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage. »«
Par quelqu'un qui habite cet hôtel. » »«
Alors, comment expliquez-vous ?
Je n'explique rien, monsieur. Je constate 2 faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence. Je les juge isolément et je cherche le lien qui les unit. »
Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants, que le baron s'inclina.
Soit, nous allons prévenir le commissaire.
À aucun prix !
S'écria vivement l'anglais.
« À aucun prix ! J'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux. »
« Cependant, les coups de feu... »«
Il n'importe ! Votre ami, mon ami n'est que blessé. Obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds de tout du côté de la justice. »
2 jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais où Sholmès poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression, exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence, et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques, et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie. Et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclairât, il ne perdait pas courage.
« Je trouverai, » pensait-il. Et c'est ici que je trouverai. Il ne s'agit pas, comme dans l'affaire de la dame blonde, de marcher à l'aventure et d'atteindre, par des chemins que j'ignorais, un but que je ne connaissais pas. Cette fois, je suis sur le terrain même de la bataille. L'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible Lupin. C'est le complice en chair et en os qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel. Le moindre petit détail, et je suis fixé.
Ce détail, dont il devait tirer de telles conséquences, et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du troisième jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir et qui servait de salle d'études aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle cherchait ses ciseaux.
« Tu sais, » dit-elle à Sholmès, « j'en fais aussi des papiers, comme celui que t'as reçu l'autre soir. »«
L'autre soir ?»«
Oui, à la fin du dîner. Tu as reçu un papier avec des bandes dessus. Tu sais, un télégramme. Eh ben, j'en fais aussi, moi. »
Elle sortit. Pour tout autre, ces paroles n'eussent rien signifié que l'insignifiante réflexion d'un enfant. Et Sholmès lui-même les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection. Mais tout à coup, il se mit à courir après l'enfant, dont la dernière phrase le frappait subitement. Il la rattrapa au haut de l'escalier et lui dit
« Alors, toi aussi, tu colles des bandes sur papier ?»
Henriette, très fière, déclara
« Mais oui, je découpe des mots et je les colle. »
« Et qui t'a montré ce petit jeu ?»«
Mademoiselle, ma gouvernante. Je lui en ai vu faire autant. Elle prend des mots sur les journaux et les colle. »
« Et qu'est-ce qu'elle en fait ?»«
Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. »
Herlock Sholmès rentra dans la salle d'études, singulièrement intrigué par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia et vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient régulièrement et proprement enlevées. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux, par Henriette évidemment. Il se pouvait que, dans la liasse des journaux, il y en eut un que mademoiselle eût découpé elle-même. Mais comment s'en assurer? Machinalement, Herlock feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie. Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une des pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot « samedi » manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit d'un samedi. Herlock éprouva ce petit serrement du cœur qui lui annonçait toujours, de la manière la plus nette, qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue. Cette étreinte de la vérité, cette émotion de la certitude, ne le trompait jamais. Fiévreux et confiant, il s'empressa de feuilleter l'album. Un peu plus loin, une autre surprise l'attendait. C'était une page composée de lettres majuscules, suivies d'une ligne de chiffres. 9 de ces lettres et 3 de ces chiffres avaient été enlevés soigneusement. Sholmès les inscrivit sur son carnet, dans l'ordre qu'ils eussent occupé, et obtint le résultat suivant. C, D, E, H, N, O, P, R, Z, tiré 237.
Fichtre, murmura-t-il. À première vue, cela ne signifie pas grand-chose.
Pouvait-on, en mêlant ces lettres et les employant toutes, former un ou deux ou trois mots complets? Sholmès le tenta vainement. Une seule solution s'imposait à lui, qui revenait sans cesse sous son crayon et qui, à la longue, lui parut la véritable, aussi bien parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales. Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable, il était certain, qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi. REPOND.Z-CH.237. Le premier mot était clair. Répondez. Un E manquant parce que la lettre E déjà employée n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement, avec le nombre 237, l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi, et l'on demandait une réponse à l'adresse ch.237. Ou bien ch.237 était une formule de poste restante, ou bien les lettres CH faisaient partie d'un mot incomplet. Sholmès feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc, jusqu'à nouvel ordre, s'en tenir à l'explication trouvée.